Accent d'Europe, Juliette Garbrand.
Bonjour. 130%, c'est l'augmentation du prix du gaz depuis le début de l'année. Une flambée qui a fait doubler dans la foulée le prix de l'électricité en Europe. Concrètement, dans les mois qui viennent, des millions de foyers risquent d'avoir des difficultés à se chauffer. Comment amortir le choc? On va en parler. Mais d'abord, revenons sur cette décision du gouvernement espagnol. Après des mois de controverses, il a annoncé la suspension de l'agrandissement de l'aéroport de Barcelone. Un projet très controversé destiné à accueillir chaque année 25 millions de voyageurs supplémentaires. L'idée d'un agrandissement est donc suspendue, mais pas enterrée, au grand dam des écologistes qui continuent à se mobiliser. C'est un reportage d'Élise Gazangel.
La pression de la rue a eu raison de l'agrandissement de l'aéroport de Barcelone. Un mois après l'annonce d'un accord entre gouvernement espagnol et catalan pour investir 1,7 milliard d'euros dans le projet, l'exécutif central expliquait le 8 septembre dernier l'abandon provisoire de l'agrandissement à cause officiellement d'une perte de confiance avec les autorités catalanes. Raquel Sánchez, ministre espagnole des Transports.
Nous considérons que cet accord a été rompu par un manque de confiance manifeste. Il est impossible de mener à bon terme un projet de cette envergure sans le soutien net et entier du gouvernement catalan.
Il faut dire que le projet qui prévoit la construction d'un nouveau terminal et d'une troisième piste d'atterrissage menace directement la Ricarda, espace naturel protégé. Face au mouvement de protestation allant des associations écologistes aux mairies alentour, le président catalan avait finalement émis critiques et réserves. Mais cet abandon, qui n'est pas définitif, n'a pas démobilisé des milliers de manifestants réunis à Barcelone le 19 septembre dernier. Maria García, porte-parole d'Écologistes en Action, explique.
La mobilisation populaire a été fondamentale. La dispute entre le gouvernement central et le gouvernement catalan n'est qu'une fiction. Ils focalisent le débat sur la préservation de la Ricarda. Mais le problème est bien plus large. Il s'agit de l'urgence climatique et du modèle économique en crise qu'ils veulent consolider. Et c'est notre mobilisation sociale qui a permis et provoqué une division au sein des partis et même du gouvernement.
L'activiste alerte en outre sur le fait que cette suspension est provisoire et que le projet d'agrandissement voulu par AENA, organisme de gestion des aéroports espagnols, pourrait revoir le jour d'ici quelques années.
À aucun moment, l'un des deux gouvernements n'a dit non à ces investissements d'AENA. Il joue simplement à embrouiller l'esprit des gens et malgré ça, on a réussi à mobiliser massivement. Ce qu'on fait là, c'est qu'on ouvre la voie pour obtenir enfin des mesures qui répondent à l'urgence sociale, économique et climatique.
Certains membres du gouvernement catalan avaient même annoncé qu'ils assisteraient à la manifestation, mais la suspension du projet a suffi à ce qu'ils ne fassent finalement pas le déplacement. Une décision que la philosophe et essayiste Marina Garcés a commentée sur scène dans son intervention.
Vous nous faites tellement honte! Vous nous faites tellement honte. Merci, vous, les politiques, de ne pas être venus à la manifestation. Faites donc votre boulot et laissez les luttes à ceux qui y croient vraiment.
Dans la foule anonyme, nombreux étaient ceux qui voulaient lancer un message aux classes dirigeantes. Pour Jordina Vidal, quinquagénaire vivant en banlieue de Barcelone, la Catalogne devrait certes investir dans les transports, mais pas dans l'aérien.
Tout le réseau des trains de banlieue souffre d'un manque d'investissement qui fait qu'il y a beaucoup de retard. Sur cette pancarte que je porte, il y a plein de billets de train et de coupons de remboursement qu'on nous donne quand le train est en retard. Ça n'a aucun sens d'agrandir l'aéroport alors qu'il y en a trois autres en Catalogne qui sont à peine utilisés parce qu'ils sont justement mal desservis par le train.
Jordi Valls, barcelonais, est lui porteur d'un message plus global qu'il a écrit en pensant à ses deux fils qui l'accompagnent à la manifestation aujourd'hui.
J'ai écrit « L'unique solution, c'est la décroissance ». On nous dit que le progrès, c'est la croissance, que les entreprises doivent produire de plus en plus, mais on sait désormais que ça ne mène à rien. Et évidemment, ce sont mes fils qui souffriront le plus si cet agrandissement se fait. Ils en subiront toutes les conséquences.
Les collectifs s'opposant au projet se sont félicités de la mobilisation actuelle, mais regrettent qu'elle n'ait pas eu lieu plus tôt, lors des derniers agrandissements du port et de l'aéroport de Barcelone, qui ont déjà réduit de 60% l'écosystème de cette zone humide protégée du delta du fleuve de Llobregat.
Un reportage à Barcelone signé Élise Gazangel. La hausse spectaculaire du prix de l'énergie menace la reprise économique et la transition énergétique. Et pour la première fois, la Commission européenne a évoqué une réforme du marché unique qui lie le prix de l'électricité à celui du gaz. Mais la première urgence, c'est de faire en sorte que les Européens puissent se chauffer cet hiver. Que peuvent faire les 27 face à cette crise ? Élément de réponse avec notre correspondante à Bruxelles, Lakshmi Lotha.
Quelques pays ont annoncé des mesures d'aide aux foyers les plus modestes, mais il n'y a pour l'instant pas de décision au niveau de l'UE. Les Européens pourraient-ils se protéger de la hausse spectaculaire du prix du gaz en agissant ensemble ? Le gouvernement espagnol propose de constituer une réserve stratégique de gaz au niveau européen. Le Premier ministre a évoqué un achat groupé. Cela a été fait avec les vaccins contre le Covid-19, argumente-t-il. Pour la commissaire européenne à l'énergie, il faut investir dans les énergies renouvelables car elles offrent une alternative à la dépendance aux importations de carburants fossiles. Les 27 sont inquiets. La hausse des prix de l'énergie menace la reprise économique et met en danger la transition climatique, a déclaré le ministre grec des Finances. Cette augmentation, si elle dure, pourrait empêcher la reprise, voire déclencher une crise sociale. Elle pourrait aussi pousser les pays grands consommateurs de gaz à se tourner vers le pétrole et les centrales à charbon, retardant les objectifs de baisse des émissions carbone. Selon une étude publiée par la Confédération européenne des syndicats, près de 3 millions de travailleurs pauvres européens n'auront pas les moyens de payer leurs factures de chauffage dès cet automne. La hausse des prix de l'énergie sera une priorité à l'agenda du prochain Conseil européen dans 15 jours.
Bloquer le prix du gaz, c'est l'une des solutions mises en œuvre en France pour aider les foyers à passer l'hiver. La mesure s'étendra jusqu'en avril prochain. Elle s'ajoute au chèque énergie et à une prime exceptionnelle de 200 € qui sera versée en décembre. Mais pour les foyers les plus défavorisés, l'inquiétude demeure, car cette flambée de l'énergie s'ajoute à une précarité déjà grandissante. En témoigne ce reportage d'Alexis Bédu à Clichy-sous-Bois, en région parisienne.
Expliquez-moi comment on peut augmenter 15% une consommation à payer pour quelqu'un qui perçoit 383 € pour finir le fin de mois.
Lawari Ghenim touche le RSA, le revenu de solidarité active. Une fois son loyer payé, il ne lui reste plus grand-chose. Sa facture de gaz a explosé, plus 25% cet été, et au début de l'année prochaine, ce sera l'électricité. Sans l'aide alimentaire des associations du quartier, il ne pourrait pas tenir.
On est resté enfermé pendant près d'une année et demie. Je vous dis pas, il y en a qui ont eu le stress, il y en a eu qui ont eu des attaques, il y en a qui sont tombés malades. Là, on s'en sort. Alors, ça veut dire que on est comme un escargot. On sort de la tête de la coquille et là, on nous dit, hop, hop, regardez-nous, on augmente. On va augmenter EDF, on va augmenter le gaz et je sais pas quoi. Et demain, ça va être l'essence. C'est quand ça va s'arrêter? C'est quand qu'on va arrêter, qu'on va penser aux êtres humains?
Pour l'UFC Que Choisir, cela pourrait s'arrêter si les pouvoirs publics prenaient certaines décisions. Antoine Autier est responsable des études et du lobby au sein de l'association de consommateurs.
La petite musique là, qui court ces derniers mois, c'est de dire les marchés internationaux explosent, on fait au mieux pour vous, finalement, les consommateurs, pour vous, les ménages. C'est pas exact. La réalité, c'est qu'il existe des leviers beaucoup plus puissants que le chèque énergie. Encore une fois, la régulation sur le marché de l'électricité et la fiscalité qui est surabondante sur l'énergie. Et les pouvoirs publics ont la maîtrise quasi totale, finalement, sur l'instrument fiscal. Et ça fait des années qu'on alerte les pouvoirs publics sur ces problématiques et rien n'a encore été fait. On peut que le déplorer.
Le chèque énergie annuel dont bénéficie la Ouari-Guénime augmentera de 100 euros cette année. Une goutte d'eau, dit-il, cela ne suffira pas pour tenir. Alors, comme beaucoup de ses voisins, dans cette cité du chêne pointu à Clichy-sous-Bois, l'homme prévoit un hiver à la soupe populaire.
Je suis moi de la banlieue, mais il y a combien de banlieues dans mon cas? Combien de personnes dans mon cas? Combien de familles? Combien de toits? Combien... Ça veut dire que vous nous demandez de retirer une assiette, de limiter, de moins manger. De moins... Mais vous savez, on est déjà à la limite. Alors si en plus vous nous serrez, on n'ira pas plus loin.
La hausse historique du gaz sur le marché mondial se répercute sur 5 millions de ménages français. L'incapacité des producteurs russes et norvégiens à amplifier leurs livraisons, les stocks très bas et la forte demande liée à la reprise économique, autant de facteurs qui provoquent une augmentation des cours du gaz. À Clichy-sous-Bois, on est loin de ces considérations. On constate juste le compte en banque qui se vide dès la première semaine du mois. Jean-Louis Merle est coordinateur du centre social au Chêne Pointu.
On a constaté une hausse de fréquentation de personnes venant nous voir pour obtenir des paniers alimentaires. Pour relever la tête, ça va être très très long. Et je vous dis, avec ces annonces du mois de septembre là, qui sont arrivées, là, voilà, on est dans le flou total. Voilà. Et les personnes ont de grandes inquiétudes.
Et il y a une crainte en particulier que les augmentations de prix atteignent les rayons des supermarchés. Fruits et légumes ont été plus chers cet été. Plastique, carton, blé, les prix des matières premières flambent ces derniers mois. Et la Ouari-Guénime constate déjà une différence.
Avant, je remplissais mon caddie. Maintenant, j'ai à peu près un demi-caddie. Et en plus de ça, je paye beaucoup plus cher. Alors, entre ça, les augmentations et tout, c'est pas normal. On ne doit pas subir ça. On veut sortir nous-mêmes de la précarité.
Depuis la rentrée universitaire il y a 3 semaines, on voit aux abords de certains campus de France les files d'attente s'allonger aux distributions alimentaires.
Les pays scandinaves ont souvent pu compter sur une électricité bon marché grâce à des ressources abondantes en énergie éolienne et hydroélectrique. La Suède, par exemple, qui a l'électricité la moins chère du continent, attire d'ailleurs les industries les plus énergivores. Mais aujourd'hui, le Royaume est à son tour rattrapé par la hausse du prix de l'énergie. Les explications de notre correspondant Frédéric Faux.
Selon Eurostat, la Suède était encore en 2020 le pays où l'électricité à destination des entreprises était la moins chère d'Europe. D'où l'installation d'industries gourmandes en énergie, comme l'usine de batterie Northvolt ou les nouvelles aciéries à hydrogène. Mais ici aussi, les prix sont à la hausse. En un an, ils ont été multipliés par 2 dans le nord de la Suède et par 3,5 dans le sud, où la différence entre l'offre et la demande est encore plus importante. La connexion accrue du marché nordique de l'électricité avec celui de ses voisins, notamment avec un nouveau câble sous-marin installé entre la Norvège et le Royaume-Uni, est une des explications. L'autre est plus conjoncturelle. Jamais depuis 10 ans, les niveaux d'eau dans les barrages des Alpes scandinaves n'ont été aussi bas. Cette tension du marché, qui pourrait se transformer en pénurie cet hiver, est une mauvaise nouvelle pour les consommateurs, mais aussi pour des pays comme la Suède, qui avaient prévu d'accélérer leur transition énergétique et d'arriver à 100% d'électricité renouvelable d'ici 2040.
C'est une mégapole démesurée, 16 millions d'habitants à cheval sur 2 continents. Istanbul est en ce moment au centre d'une exposition du musée stambouliote privé Sakıp Sabancı. Elle présente les œuvres de 23 artistes contemporains. Photos, peintures et vidéos proposent un regard critique sur la ville symbole de la Turquie historique et moderne. Istanbul, hier et aujourd'hui. C'est jusqu'au 28 novembre et notre correspondante Anne Andlauer nous raconte sa visite.
Dans une immense salle bleue, 100 visages couvrent tout un mur. Ce sont les portraits de femmes et d'hommes, inconnus du visiteur et les uns des autres, dont l'unique point commun est de vivre à Istanbul. Cette œuvre du photographe Koran Karaysal, qui l'a intitulée « Une foule familière », est l'un des seuls moments de cette exposition sur Istanbul où l'on verra des stambouliotes. Partout ailleurs, c'est l'effet de ses habitants sur la plus grande ville turque, l'effet surtout des décisions de ceux qui dirigent la Turquie, que les artistes explorent et dénoncent. Sur un autre mur, suffisamment haut pour qu'on ne le remarque pas tout de suite, un voilage flotte au vent. Vrai voilage, mais faux vent et faux balcon. Neslihan Koyucubali rappelle que dans l'architecture classique d'Istanbul, celle du 19e siècle du moins, le balcon était un incontournable des maisons de la ville. Sur les immeubles neufs qui poussent comme des mauvaises herbes, Après avoir détruit l'ancien et évacué les habitants jugés indésirables, les balcons sont souvent absents. L'artiste y voit tout un symbole de la gentrification. Didem Erbach, elle, a construit un tunnel de tôle. On y entre presque à contre-cœur parce qu'il n'a pas l'air bien solide, parce que chaque pas fait tout un vacarme et que des câbles en silicone couleur chair sont suspendus dans le passage. On ne sait pas bien si c'est un abri ou un piège, et c'est précisément le sentiment que l'artiste voulait transmettre dans cette installation intitulée « L'humain loin de son nid ». Dans la dernière partie, un peu comme un oiseau échappé de ce nid, on marche sur des vidéos d'Istanbul filmées depuis le ciel par Eren Sulamacı. Des artères toutes droites, encombrées de véhicules, encadrées de gratte-ciel, images projetées en noir et blanc. La monochromie passe très bien puisqu'il n'y a de toute façon plus de verre. L'Istanbul assez sombre que dépeint cette exposition, c'est une ville qui se meurt de l'intérieur pendant que ses habitants s'y meuvent de plus en plus péniblement, impuissants, comme collés à un mur.
Et on retrouve Vincent Théval pour la chronique musique. Bonjour Vincent.
Bonjour Juliette.
Quelle est la sortie de la semaine, Vincent ?
Après un peu plus de 20 ans d'existence, le trio danois Efterklang publie aujourd'hui son 6e album, Windflowers, une collection de 9 chansons pop amples et élégantes, parfaitement balancées entre sonorités organiques et électroniques. Et comme beaucoup des disques qui sortent cette année, Windflowers a été conçu pendant la pandémie, un contexte qui nourrit les paroles résolument optimistes écrites par Kasper Clausen et qui a aussi joué sur les conditions d'enregistrement du disque. Les 3 musiciens sont ainsi revenus aux bases de leur collaboration et ont enregistré ces nouveaux morceaux au fil de 5 résidences sur une petite île au sud de Copenhague, limitant au strict minimum les interventions extérieures. Parmi celles-ci, la chanteuse Karen Beldring, invitée sur la chanson Dragonfly.
Dragonfly, un titre du dernier album du groupe danois Efterklang, et une chronique de Vincent Théval à consommer sans modération, c'est tous les vendredis dans Accent d'Europe. À la réalisation, Françoise Grelot, retrouvez-nous sur rfi.fr à la page podcast et sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. À bientôt.